Nous sommes entrés dans la semaine de Pâques, et déjà nous arrivons le dimanche, un dimanche glorieux, glorieux aujourd'hui en raison du soleil qui brille, heureux en raison du nombre, heureux parce que nous allons ouvrir une page glorieuse. Je trouve cela dans la Bible, dans le Saint-Évangile de Jean, et je lis que le premier jour de la semaine, beaucoup ont oublié que dimanche, c'était pas le dernier jour, ce n'est pas le dernier jour de la semaine, c'est le premier jour de la semaine. Mais ce jour-là, ce premier jour de la semaine, Marie de Magdala, aussi appelée Marie-Madeleine, se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore nuit. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent, et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit. Et il crut. Nous trouvons ici deux hommes. L'un s'appelle Pierre et l'autre Jean. Mais nous allons oublier leur nom. Car ces deux hommes ont existé de tout temps, du temps des apôtres. Et ils sont ici représentés parmi nous ce matin. Ces deux hommes, d'abord, sont à la recherche de la vérité, à la recherche de la vie, à la recherche du Christ ressuscité. Tous ne cherchent pas la vérité, mais il y en a deux qui cherchent ce qui est vrai. Non seulement ils cherchaient la vérité, mais ils couraient à la recherche de cette vérité. Et le verbe courir est même mentionné deux fois au verset 2, puis au verset 4, ils couraient. Ils ne remettent pas la chose à demain. Ils la veulent pour tout de suite. La vérité pour eux, c'est une affaire sérieuse. Elle en vaut la peine. Et c'est vrai que la vérité est du côté de ceux qui la recherchent passionnément. Non seulement ils étaient deux, non seulement ils couraient, mais je lis qu'ils couraient tous les deux ensemble. Sur la ligne de départ, il n'y avait pas de différence. Ils étaient côte à côte. C'était la même énergie, c'était le même but. Le texte se poursuit par « l'un courut plus vite que l'autre ». Sans doute était-il plus alerte que l'autre, plus apte que l'autre à l'exercice corporel, peut-être n'était-il pas si vite à bout de souffle. Certains pourraient dire « mais c'est pas juste ». L'un est défavorisé par rapport à l'autre, puisqu'il court moins vite. Minute, s'il vous plaît. Car si l'un des deux va plus vite que l'autre, remarquez qu'il est aussi moins tenace, il est moins profond. Il arrive bon premier, mais il ne prend pas la peine d'entrer. Il se tient sur le seuil, il se baisse, il jette un coup d'œil, et que voit-il ? Il voit les bandes qui avaient entouré le corps du Seigneur, qui était là par terre, et il en conclut à vide et désordre. L'autre, lui, ne se contente pas d'un coup d'œil sur la vérité. Il y entre, et il vit davantage, non seulement que le sépulcre était vide, mais que les bandes aussi étaient par terre, et que le linge qui couvrait la tête du Seigneur était plié soigneusement à côté et à part. Il vit davantage. Celui qui était précipité vit ce qui paraissait précipité dans la résurrection, ce qui paraissait hâtif et fébrile. L'autre, plus ordonné, plus méthodique, vit ce qu'il y avait d'ordonné et de méthodique dans la résurrection. Le premier a vu l'aspect superficiel, l'autre a vu l'aspect profond et réel. Ce qui me permet déjà de tirer une première conclusion, et je dis non. Dans les choses de Dieu, un coup d'œil ne suffit pas. Oh, je sais, il peut suffire d'un regard pour être sauvé. Cela est écrit dans le livre des Nombres, où Moïse avait fait clouer un serpent sur une perche et avait dit « Celui qui regardera le serpent sera sauvé ». C'est vrai qu'il suffit d'en regarder pour être sauvé, mais quel regard profond que celui de la foi! Il est écrit « Celui qui contemple le Fils et qui croit en lui à la vie éternelle, c'est un regard profond, celui de la contemplation et de l'assimilation. » Toujours est-il que le bon exemple est communicatif. L'autre y entra à son tour et crut. Remarquez qu'il ne crut que lorsqu'il fut entré, ce qui conforte l'idée que non, un coup d'œil ne suffit pas. Appliquons-nous maintenant ce récit. Celui qui va plus vite que l'autre, qui est-il? Eh bien, voyez-vous, il y a des gens naturellement religieux. Ils sont plus religieux, plus mystiques que d'autres. C'est là un domaine où ils se déplacent plus vite. Ils sont, dirait-on, dans leur élément. Mais il faut plus que le sentiment religieux pour sauver. Il faut se convertir. Il faut naître de nouveau, disait Jésus. Et c'est là le résumé de la conversation de Jésus avec Nicodème, un homme extrêmement religieux, professeur de religion, s'il vous plaît. Et c'est à lui que Jésus a dit, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui vont plus vite que les autres, ce sont les enfants de parents chrétiens. Ils ont appris à connaître le Seigneur. Ils ont entendu les conversations qui les ont édifiées sur la personne de Jésus-Christ. Ils ont assisté au culte. Mais il faut plus qu'une piété familiale pour être sauvé. Il faut une foi personnelle. Ceux qui vont plus vite que les autres, ce sont ceux aussi qui ont un esprit clair et lucide. La logique philosophique, l'analyse d'un texte leur est chose facile. Leur cerveau est une sorte de classeur, j'allais presque dire un ordinateur. Mais la sève, la moelle de la Bible, elle est ailleurs que dans la classification des paragraphes et des idées. Ça doit être plus profond, il faut entrer dans la connaissance, dans l'intimité de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui nous a tant donné de révélations sur la personne du Seigneur, lorsqu'il écrit l'épître aux Philippiens, nous dit au chapitre 3 et verset 10 qu'il n'avait pas fini de connaître le Seigneur, et il dit ainsi, « Je connaîtrai le Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances et la conformité en sa mort. » Il y avait toujours des découvertes à faire dans l'expérience et la vie de l'apôtre Paul. Et le Seigneur lui-même a fait allusion à cette peine qu'il vaut la peine de prendre pour descendre plus profond dans le cœur des choses. Il nous a raconté la parabole des deux constructeurs, l'un qui bâtit sur le sable très rapidement, l'autre qui prend la peine de creuser et de poser sa maison sur le roc. Et il y a une découverte qui tient de la persévérance. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Abraham avait la promesse, mais il n'entra dans la promesse, il ne l'obtint que dans la persévérance. Oui, la persévérance et l'effort sont des denrées rares au XXe et XXIe siècle. C'est que nous sommes dans le siècle de l'image, de l'illustré, du digest, du préfabriqué, du facile, du tout mâché, et cela risque de déteindre sur notre vie spirituelle. Et nous sommes en danger d'être des chrétiens de bordure, de ne connaître que la frontière du royaume de Dieu. Il m'arrive souvent dans mes nombreux voyages de m'arrêter et de visiter des grottes. Mais quand vous voulez visiter une grotte, la grotte des Demoiselles, la grotte de Clamouse, j'en ai connu en Angleterre, à Monte-Carlo. Lorsque vous visitez des grottes, il ne suffit pas de payer son entrée. Il ne suffit pas d'aller jusqu'au bord. Il faut y entrer pour découvrir les merveilles qui s'y trouvent. Eh bien, c'est la même chose avec la vie chrétienne. On peut s'en tenir à la frontière des choses. On peut s'en tenir, par exemple, à la frontière de la prière, se contenter de celle que l'on fait au repas. Quand un bon potage bien chaud vous monte dans les narines, fermez les yeux et dire « Seigneur, bénis cette nourriture » et le monde entier « Amen ». Vous croyez que c'est la prière, cela ? Ou se contenter de celle que les autres font au culte et à laquelle on ajoute son amen particulier. Ça, ce n'est pas y descendre vraiment, ce n'est pas y mettre du temps, ce n'est pas faire ce que le Seigneur nous enseignait de nous enfermer chez nous, de ployer les genoux et là de nous mettre au travail dans la communion avec le Seigneur. On peut s'en tenir non seulement à la frontière de la prière, mais aussi à la frontière de la lecture de la Bible, se contenter du feuillet du calendrier, se contenter de la méditation du responsable, du pasteur. Et alors, comme Jean, quand on aborde la parole de Dieu de cette façon-là, occasionnelle, on en conclut au vide et au désordre, et la Bible devient vite un livre sans harmonie. L'apôtre Paul disait à son enfant Timothée, « Attache-toi à la lecture, sois-y tout entier. » On peut se contenter non seulement de la frontière de la prière, de la frontière de la lecture de la Bible, mais on peut s'en tenir aussi à la frontière de la sanctification. Se contenter d'un vernis de christianisme, de ce qui est aussi appelé la forme de la piété d'en avoir que la forme, avoir ce que Jésus appelait la justice des pharisiens qui n'affecte que l'extérieur. Et oui, on peut se contenter d'une petite allure de sainteté. D'autres, non seulement ne s'en tiennent que à la frontière de la prière, de la lecture de la Bible, frontière de la sanctification, mais aussi ils se tiennent à la frontière de l'Église, à la frontière de l'Assemblée. Ils n'y entrent pas vraiment. On ne sait pas s'ils sont dedans, on ne sait pas s'ils sont dehors. L'Église réformée a une jolie expression, on les appelle les périphériques. Ils sont là, tout autour. J'ai connu un jeune homme, il s'en est tenu à la frontière du mariage, à la frontière de l'amour. Il pensait se marier, bien sûr, comme presque tout le monde, mais lorsqu'il faisait un pas dans cette direction, il faisait deux pas en arrière, il n'osait pas s'engager, et le résultat, c'est qu'il est resté un vieux garçon. Alors on peut se demander, mais pourquoi certains restent-ils à la frontière des choses? Pourquoi n'entrent-ils pas dans l'Église? Pourquoi ne se font-ils pas baptiser? Pourquoi ne prennent-ils pas part à la Sainte Cène et aux activités de l'Assemblée? Mais pourquoi? Eh bien, j'ai trouvé une réponse. Je reviens à mon jeune homme. S'il y a dans le mariage, dans l'amour, des découvertes exaltantes, il y a aussi de nombreuses responsabilités. Et c'est peut-être là qu'il n'a pas voulu faire les quelques pas supplémentaires. Voyez-vous, quand on entre plus profond dans la connaissance des choses, il y a des évidences qu'on ne peut plus nier, qu'on ne peut plus ignorer. On n'a plus la liberté de mouvement. Plus vous empoignez la vérité, plus elle vous empoigne et plus elle vous tient captif. Plus vous maîtrisez la vérité, plus elle vous maîtrise. Dans le livre des Actes des Apôtres, au début de ce livre, les apôtres Pierre et Jean et les autres furent enjoints de ne plus parler au nom du Seigneur Jésus. Et qu'ont-ils répondu? Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues. Ils étaient prisonniers captifs de cette vérité. Ils savaient qu'il était ressuscité et ils ne pouvaient plus ne pas en parler. D'autres restent à la bordure des choses parce qu'ils sont naturellement superficiels. Le Seigneur nous l'a dit en nous racontant la célèbre parabole du semeur. Il y a de la semence qui tombe sur le bord du chemin, il y a de la semence qui tombe dans un terrain qui n'a pas de profondeur, il y a que des pierres, des cailloux, et au premier rayon du soleil, elle sèche. Non, ça ne les intéresse pas. Ils désirent juste un peu de vérité, un peu de Jésus-Christ pour avoir l'assurance de la vie éternelle, mais ils ne vont pas plus loin. Ne m'en demandez pas trop. Et puis d'autres sont trop engagés dans certaines directions. Ils sont comme le chien de la fable. Ils lâchent la proie pour l'ombre. Je suis toujours émerveillé de rencontrer des jeunes gens qui préparent leur métier, leurs études. Je suis émerveillé par l'ardeur qu'ils mettent dans leur profession, le sérieux dans leurs études. Et je suis vraiment étonné dans le bon sens. Mais combien je voudrais qu'il y ait une sorte de contrepartie et que dans les choses de Dieu, ils mettent aussi beaucoup plus de sérieux et de consécration. J'arrive maintenant déjà à la conclusion de notre message. C'est que le deuxième entra. Il entra aussi et il crut. Le bon exemple est communicatif. Souvent, nous le savons, c'est le mauvais qui prévaut. Mais ici, c'est le bon qui triomphe. Ainsi donc, par plus de sérieux, plus de persévérance, plus de profondeur, par plus d'esprit de recherche des profondeurs de Jésus-Christ, nous puissions aussi entraîner les autres dans les profondeurs que nous propose la parole de Dieu. Il descendit. Il vit à la fois le vide, les bandes qui étaient par terre, mais aussi ce suaire ou ce linceul qui était mis sur la tête du Seigneur, soigneusement plié à part. Il était vraiment ressuscité. C'était pour lui une découverte, un jour de joie, une salutation. Une salutation qui est, il est vraiment ressuscité. C'est un jour de triomphe, c'est un jour de gloire. Jésus est vivant, et parce qu'il est vivant, nous pouvons lui parler. Il peut nous entendre, il peut nous répondre. Parce qu'il est vivant, il est allé nous préparer une place, et bientôt il reviendra pour nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi, nous dit l'Écriture. Qu'ainsi ces paroles fassent de nous des gens heureux, non seulement dans cette journée du dimanche de Pâques, mais aussi dans toutes celles qui vont suivre, jusqu'à ce qu'il revienne du ciel pour nous prendre avec lui, et que Dieu vous bénisse.